Nicolas le dit, une partie vient de l'Algérie depuis 2007-2008 en créant ACMI, une partie vient de la Mauritanie peut-être. Les têtes pensantes viennent de l'extérieur. Mmh. Mais l'immense majorité, c'est des Maliens. Mmh. Moi, mon souci aujourd'hui, c'est que ces troupes, ces jeunes, c'est ce qu'on appelle ces bandes armées, ce n'est pas une génération spontanée d'assassins,
de méchants et de terroristes
qui pillent, mais c'est toute une armée de désespérés. Et moi, mon premier essai, l'étau, j'ai commencé par mettre en garde et nos pays et nos partenaires extérieurs en disant que ces politiques économiques mises en œuvre dans nos pays qui secrètent le chômage nous réserve des lendemains douloureux.
Ça fait très longtemps que vous dites ça, vous n'êtes pas la seule à le dire, mais ça fait des années et des années que vous dites et que vous répétez les politiques imposées par le Fonds monétaire international, par la Banque mondiale dans un pays comme le Mali, conduisent à ces désastres économiques, à cette paupérisation. Les politiques de développement n'ont aucun effet sur un pays comme celui-là, dont l'économie est détériorée, mise à plat par la concurrence.
Coton, l'or, et les migrations, la question migratoire. C'est-à-dire qu'on a tiré la sonnette d'alarme à propos de l'immigration d'abord, avant les guerres. C'est-à-dire si on veut construire aujourd'hui une pensée critique de ce qui se passe dans notre région, il faut vraiment prendre en compte la profondeur historique d'où nous venons. Mmh. C'est-à-dire, on entre dans l'indépendance sans changer de logique économique par l'exportation de matières premières. Dans notre cas, c'est le coton. Donc, l'appauvrissement et le chômage, mais qui prend des proportions surréalistes, mais personne ne s'en occupe. C'est pour ça que moi, je me dis que chaque Français qui comprend les termes du chômage, de la problématique, ce dont vous souffrez ici, c'est de cela que nous souffrons au Mali.
Oui, c'est pas si exotique que ça, c'est même pas du tout.
Il suffit de se dire que d'abord, on était le pays considéré comme le bon élève de la sous-région pour avoir bien appliqué ces politiques-là, mais aussi une démocratie exemplaire. Mais quand tout cela dégringole, et que ça se termine par la situation que nous connaissons au nord, c'est-à-dire la porosité des frontières, l'absence de l'État, et tout ce qui est dénoncé à la fois par les rebelles et beaucoup d'analystes, résulte quand même de plus de 3 décennies de dérégulation et de désétatisation. On a dit aux États africains post-coloniaux, désengagez-vous. Donc on se désengage au sud et au nord. C'est pour ça que quand on me dit que la légitimité des revendications des Touaregs et des populations du Nord, c'est vrai, c'est faux. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais ces mêmes problèmes, vous les retrouvez au Sud. Il n'y a pas une volonté politique délibérée de sous-développer une partie du Mali. Mais le Mali s'est embarqué dans une logique économique de paupérisation et surtout qui crée des chômeurs. Les jeunes Touaregs, comme les jeunes du Sud, souffrent du chômage depuis longtemps déjà. Et de part et d'autre, ils ont attiré l'attention des politiciens là-dessus. Donnez-nous du travail, nous ne nous embarquerons dans aucune aventure. Donc aujourd'hui, où la France est confrontée à ce douloureux problème du chômage des jeunes, posons globalement les questions ensemble. Mmh. Est-ce que ce système est en mesure d'éradiquer les maux de nos sociétés, c'est-à-dire la paupérisation, le chômage et le désarroi des jeunes.
Mais ce que vous expliquez souvent, Aminata, c'est comment les politiques imposées par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont obligé le Mali à ouvrir ses frontières. Si le Mali était protégé, avait un certain protectionnisme, parce qu'il ne faut pas employer ce mot-là, mais enfin c'est quand même ce qui serait nécessaire pour un pays comme celui-là, ça fonctionne. Mais quand les frontières sont ouvertes à des produits qui viennent des pays riches, des produits subventionnés, l'économie du Mali s'effondre totalement, que ce soit pour le coton ou diverses activités.
Tout à fait. Mais c'est cette lame de fond dont on ne veut pas tenir compte. Moi, je me dis, c'est quoi ? Est-ce une manière de nous dire que nous avons une capacité phénoménale de supporter la misère et les privations ? Et pourquoi on ne veut pas toucher du doigt les causes structurelles de la déliquescence de l'État, de la souffrance des populations, qui fait que depuis bien avant